Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, RTL au cœur de l'usine qui fabrique les vaccins contre la grippe.
Une plongée rare dès le début de ce journal. La campagne de vaccination commence aujourd'hui. Le soulagement des agriculteurs deux semaines après l'incendie de Lubrizol à Rouen. Les analyses sont rassurantes. La collecte du lait peut reprendre dès ce matin. Nouvelle polémique autour du voile, on vient de l'entendre. Mais au fait, la loi contre le port du voile dans les espaces publics, du voile intégral, elle est entrée en vigueur il y a 9 ans. Est-elle efficace? Ce sera la question du 8h. Et puis vous entendrez la déception de Bichente et Lizarazu au lendemain de la prestation très moyenne des Bleus face à la Turquie, un partout.
Notre météo, Marina Giraudeau.
Temps pluvieux, venteux et orageux sur l'est du Grand Est à la Méditerranée avec 6 départements en vigilance orange, essentiellement Provence-Alpes, Côte d'Azur et Sud-Rhône-Alpes. Cet après-midi, ça se cantonnera aux départements alpins et au Grand Est. Ailleurs, vous aurez une alternance de passages nuageux, d'éclaircies et d'averses, nombreuses ce matin au sud de la Loire. Les températures seront en baisse cet après-midi. On reviendra des moyennes de saison 12 à 18 au nord, 18 à 24 au sud.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Vous vous êtes peut-être déjà demandé ce qu'il y avait dans le vaccin contre la grippe. Alors beaucoup se méfient, même s'il n'est pas efficace à 100%, il reste le moyen le plus sûr de s'éviter des complications, voire pire. On rappelle que la grippe a fait l'hiver dernier 9500 morts en France. La campagne de vaccination commence aujourd'hui, elle durera jusqu'au 31 janvier avec une nouveauté. L'injection pourra être pratiquée en pharmacie partout en France, à la seule condition pour les pharmaciens d'être volontaires et équipés. On vous emmène ce matin donc au cœur du laboratoire qui fabrique ce fameux vaccin contre la grippe, l'usine Sanofi de Val-de-Reuil dans l'Eure. RTL en immersion, Odile Pouget.
Une quinzaine de bâtiments disséminés sur un terrain de 30 hectares, c'est dans l'un d'eux, au cœur d'une zone ultra sécurisée, que sont transportées d'énormes cuves contenant le vaccin.
Alors nous sommes ici après l'étape de mélange. On va réaliser des opérations de remplissage de nos vaccins dans des seringues et dans des flacons.
Philippe Ivanez, directeur du site.
Ce sont des machines qui tournent à 30 000 seringues à l'heure.
Derrière une vitre, le personnel porte masque et combinaison. Les contrôles sont incessants.
On va vérifier qu'il n'y a pas de contamination, qu'il n'y a pas de particules.
Étape précédée de beaucoup d'autres, à commencer par la culture des 4 souches qui seront présentes dans le vaccin. Culture pratiquée sur des œufs de poule.
Ce sont 600 000 œufs qui transitent sur l'usine chaque jour et qui font l'objet bien sûr d'un suivi très particulier.
Philippe Juvin, pharmacien responsable de Sanofi Pasteur.
Les œufs sont de mini-réacteurs dans lesquels on va incuber le virus pour le cultiver avant de le récolter et en extraire l'antigène qui sera la substance qui va permettre à l'organisme de se protéger contre la grippe.
Et ici, la dernière étape, c'est le packaging.
Mise en étui avec notice et numéro d'identification sur chaque boîte, la fabrication du vaccin disponible aujourd'hui dans les pharmacies a commencé début 2019, une course contre la montre. Philippe Ivanès.
Nous avons 7 mois à peu près entre les recommandations de l'OMS en février, c'est-à-dire les souches qu'il faut utiliser, les virus qu'il faut utiliser dans le vaccin, et les premières mises à disposition fin juillet, début août.
200 millions de doses vendues dans le monde entier sortent de cette usine chaque année.
RTL en immersion, signé Odile Pouget.
RTL Matin, 8h04.
Plus de 15 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'étau se resserre autour des agriculteurs.
L'étau se desserre. Les analyses sur le lait et les produits laitiers sont rassurantes. La collecte peut reprendre. Depuis un peu plus de 2 semaines, des milliers d'éleveurs étaient obligés de jeter chaque jour leur production. Vous êtes avec l'un d'eux, Julien Caillard, bonjour.
Bonjour.
Il s'appelle Bruno, il est à Bosc-Guérard-Saint-Adrien, c'est tout près de Rouen.
Oui, chez Bruno, la collecte a repris dès cette nuit. Satisfaction de ce producteur à l'heure de la traite.
Content de retravailler pour quelque chose. Parce qu'on jetait plus de 20 000 litres de lait, ça représente plus de 900 euros par jour. Donc ça représente entre 12 et 15 000 euros.
Satisfaction donc, même si la colère est loin d'avoir disparu.
Clairement de l'amertume, parce qu'on aurait pu remettre nos produits plus vite dans le circuit alimentaire, parce qu'on avait toutes les garanties pour vendredi. En plus, on a eu le ministre qui nous l'a promis. On a perdu 72 heures et en plus, c'est un week-end. Quand vous savez que le ministre, lui, part en week-end et que sa faute, il se passe rien, ben vous êtes très amer.
Alors Bruno attend bien sûr d'être indemnisé, mais ce qu'il va guetter, c'est aussi le comportement des consommateurs.
Pour les circuits courts notamment, parce que c'est des gens qui sont très sensibles à ça, mais je pense que la confiance va revenir assez vite et je l'espère fortement.
Et ce que Bruno espère aussi, c'est la levée rapide des restrictions sur les autres productions.
Reportage signé Julien Caillard, près de Rouen. À Firminy, dans la Loire, une jeune femme de 24 ans a été tuée tard hier soir dans un accident de manège. Une traction avec des nacelles suspendues. Une autre personne est grièvement blessée ce matin. Un expert est attendu sur place. C'est une triste première dans le Pas-de-Calais. Deux jeunes Irakiens ont été retrouvés morts sur une plage du Touquet. L'un d'eux avait 17 ans. Ils auraient chaviré en tentant de rejoindre l'Angleterre.
RTL 8h06.
Plus que 4 départements en vigilance orange après les violents orages de ces dernières heures.
Vigilance maintenue dans les Alpes de Haute-Provence, les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse. La ville d'Arles a été particulièrement touchée cette nuit par une tornade. Vous avez des précisions, Hugo Hamelin ?
Absolument, vers 5h du matin, le phénomène de tornade très localisé sur quelques rues d'Arles seulement, mais qui a provoqué de nombreux dégâts, une quinzaine de toitures arrachées, des mobilhomes retournés au camping de l'Arlésienne notamment, et puis 3 blessés légers, dont un a dû être transporté à l'hôpital pour un nez cassé. Une centaine de pompiers sont sur place, ils vérifient combien de personnes vont devoir être relogées. Ça pourrait concerner une dizaine de familles. Un gymnase à Arles a été réquisitionné pour les loger pour le moment, mais ces pompiers se rassurent en se disant qu'ils vont pouvoir intervenir dans de bonnes conditions puisque les orages se sont déplacés du côté du Var désormais. Phénomène qui devrait se calmer en fin de matinée.
Merci Hugo Hamelin en direct. Beaucoup de pompiers en intervention ce matin, donc on l'entend, mais ils seront aussi nombreux à manifester cet après-midi à Paris pour de meilleures conditions de travail et une revalorisation de leur salaire. Une manifestation entre République et Nation à partir de 14h.
À 8h20, débat avec notre invité, le colonel Grégory Allione, qui est le président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
RTL, il est 8h07.
Retour d'un sujet sensible.
Le port du voile dans l'espace public. Une mère, vous le savez, qui a accompagné des élèves lors d'une sortie scolaire vendredi en Côte d'Or, a été prise à partie par un élu du Rassemblement National. Le gouvernement se déchire sur la question. Quant au délégué général du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, il se montre, vous allez l'entendre, inflexible sur le port du voile. Loi ou pas, les femmes feront ce qu'elles veulent.
Qu'ils aient le courage de faire une loi pour interdire le foulard ou le voile dans l'espace public.
Et dans ces cas-là, vous direz respectons la loi ?
Non, parce qu'ils ne la respecteront pas. Parce que c'est quelque chose d'individuel. Je dis que ces femmes-là sont libres. Il ne peut pas y avoir une loi. S'il y a une loi, on va la combattre.
Abdallah Zekri sur RTL hier soir avec Thomas Soto.
Alors, il y a tout juste 9 ans, la loi dite Copé interdisait le port du voile intégral dans l'espace public. Est-ce bien appliqué ? Est-ce qu'elle fonctionne ? C'est la question de 8h.
Avec vous, Sinamir, bonjour.
Bonjour.
Il y a eu beaucoup d'amendes.
Et il y a eu environ 300 à 400 PV dressés par an pendant les 5 premières années, puis ça a baissé aux alentours de 200 aujourd'hui. C'est une amende de 150 €, hein, pour quelqu'un qui dissimule son visage derrière une burqa ou un niqab. 200 verbalisations par an, ça peut paraître rien sur 67 millions de Français. Rien sur 6 à 8 millions de musulmans en France, et beaucoup si on se dit que ça concerne une femme tous les deux jours. La seule chose, c'est que le gros de ces verbalisations ou de ces procédures judiciaires concerne en fait dans beaucoup de cas les mêmes personnes, jusqu'à 33 PV pour une seule femme voilée dans un engagement somme toute très militant.
Est-ce que cette loi, Sina, a changé quelque chose dans la société ?
C'est devenu un symbole, dit un expert gouvernemental du sujet, quand on regarde ces chiffres assez faibles au final. Certains mouvements islamistes l'avaient d'ailleurs récupéré pour inciter à des actions en France. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas un texte de laïcité, c'est une loi de sécurité publique. Ce qui est interdit, c'est de dissimuler son visage, pas de porter le voile. Et dans les faits, le nombre d'amendes diminue parce que certains policiers cessent aussi de dresser systématiquement des PV face aux mêmes personnes engagées dans une forme de provocation. Cela reste une loi faite pour très peu de personnes, plus d'une centaine tout au plus.
La question du 8h avec Sinamir. Dans un instant, Paris confronté à la fuite des djihadistes français en Syrie. Restez avec nous.
RTL 8h09.
RTL Matin.
RTL 8h12, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Donald Trump est décidément difficile à suivre sur la Syrie.
Oh que oui, après avoir donné son feu vert à Ankara la semaine dernière pour une offensive contre les Kurdes, le président américain change de ton ce matin avec la Turquie. Il réclame un cessez-le-feu et impose surtout des sanctions. Les droits de douane sur l'acier turc sont relevés à 50%. Et pendant qu'il souffle le chaud et le froid, la France, elle reste droite dans ses bottes malgré la situation qui dégénère sur place. Une prison de djihadistes a été ouverte. Bonjour Christophe Decroix.
Bonjour.
Pour Paris, il est toujours hors de question de récupérer ces terroristes en puissance.
Oui, et cela même si une dizaine de femmes françaises djihadistes se seraient déjà échappées du camp prison d'Aïn Issa avec leurs enfants à la suite de violents combats qui se sont déroulés à proximité. Mais on ne change rien car côté français, on estime que les camps les plus importants, ceux d'Al-Hol, Roj et d'Erik, situés dans le nord-est de la Syrie, restent bien gardés par les Kurdes et que les Turcs ne sont pas prêts d'y arriver. Pourtant, selon le département d'État américain, il y aurait dans la région 2000 combattants étrangers, dont 60 Français, 60 combattants sur les 450 Français recensés. Officiellement, la France ne veut toujours pas les récupérer et souhaite qu'ils soient jugés sur place.
La France, il faut le dire, Christophe, qui a été prise de court par la puissance de feu des Turcs.
Oui, on ne savait pas la semaine dernière quels seraient les moyens militaires engagés par les Turcs. Eh bien, c'est une mobilisation de haute intensité qui est constatée. Les Turcs ont bombardé la frontière sur 500 km et lancé des troupes terrestres sur un front de 110 km et jusqu'à 40 km de profondeur à l'intérieur de la Syrie. En revanche, on ne sait toujours pas où les Turcs ont l'intention de s'arrêter. Face à cette offensive, la France estime que ce sont 5 ans de lutte contre Daesh qui sont mis par terre, mais elle ne peut agiter que des menaces diplomatiques, voire des sanctions économiques, qui pour le moment ne font ni chaud ni froid au président Erdogan.
Merci Christophe Decroix, et on rappelle que l'offensive turque a déjà fait 160 000 déplacés d'après l'ONU.
RTL 8h14.
Il y a 6 mois, les images de Notre-Dame en proie aux flammes faisaient le tour du monde.
Et le chantier qui devait prendre 5 ans, selon le vœu d'Emmanuel Macron, risque bien de durer beaucoup plus longtemps. La reconstruction n'a pas encore commencé, on en est toujours à sécuriser les lieux. Le risque d'effondrement est présent, hein, disait sur RTL il y a quelques minutes l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve. Mais loin d'avoir dit son dernier mot, la cathédrale s'est fait entendre lors des obsèques de Jacques Chirac. Le bourdon de la tour sud, épargné par l'incendie, a résonné dans la capitale. Faute d'électricité, il a fallu l'actionner à la main, à l'ancienne. Et parmi les 6 sonneurs, André Finot, ici au micro de Marie Guerrier.
On a accroché une corde, hein, c'est une corde résistante au battant. Le battant du bourdon, il fait 500 kilos. Donc, comme il n'y a plus d'électricité, on doit tout faire à la main. Ce qui est le plus difficile, en fait, c'est d'actionner le battant. Ce premier réalancement, ensuite, ça vient tout seul, hein, il suffit de tirer des coups secs. On est en combinaison, des casques, on a des sous-vêtements de protection et voilà des masques auto-ventilés qui nous permettent d'éviter d'être contaminés par du plomb. Et bien évidemment, l'expert nous a montré comment faire avant. C'était la première fois depuis 1945, nous a-t-il raconté, que les cloches étaient sonnées à la main à Notre-Dame. Et voilà, c'était parti pendant 35 à 40 minutes. Donc un moment extrêmement émouvant. Notre-Dame s'est toujours associée aux grandes heures de la nation. Notre-Dame continue à vivre, elle continuera à vivre toujours debout, en plein centre de Paris.
Le sonneur du bourdon de Notre-Dame avec Marie Guerrier. Il a beau avoir sonné les cloches d'Emmanuel Macron avant son départ du gouvernement l'an dernier en critiquant sa méthode, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, a reçu l'investiture LREM pour les élections municipales à Lyon. Le maire sortant est récompensé donc pour sa fidélité et il devra affronter un candidat dissident. Les évadés à Marseille, 4 détenus se sont échappés du fourgon lors d'un transfert du tribunal vers la prison des Baumettes. Ils ont forcé la portière et sont toujours introuvables à l'heure qu'il est.
RTL 8h15.
Pas de débordement hier soir au Stade de France, mais un score décevant pour les Bleus.
France-Turquie, hein, partout, la qualification pour l'Euro 2020 devra donc attendre un peu. Les hommes de Didier Deschamps devront battre la Moldavie le 14 novembre. Forcément déçu, hein, Bichente Lizarazu.
Mon sentiment sur ce match, c'est de la déception. On a fait un match très très moyen, on a été très laborieux. Techniquement, au milieu, on a été fébrile en deuxième période, notamment avec Varane et puis Longley. Et puis offensivement, ça a été difficile aussi de trouver des repères avec Ben Yedder. Ça n'a pas fonctionné. L'attaque de l'équipe de France amenée par Ben Yedder, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Pour moi, il y a une déception vraiment globale qui fait que finalement, on ne méritait pas forcément de s'imposer ce soir, même si en face, l'adversaire, il était très moyen lui aussi. Hein. Voilà, ça c'est le constat d'un match. J'y associerai aussi le match de l'Islande, qui n'était pas un match extraordinaire, mais il n'y a pas de panique à bord, on a encore 2 matchs, il suffit de s'imposer face à la Moldavie et puis on sera qualifié. Donc voilà, je crois qu'il faut simplement tirer un peu les enseignements, hein, de nos difficultés sur ce match face à la Turquie. J'espère que Pogba reviendra parce que cette qualité technique nous manque, j'espère que Kylian Mbappé aussi reviendra parce que sa vitesse, ses dribbles apporteraient quand même beaucoup à l'attaque de l'équipe de France. On a 2 matchs et particulièrement le premier à domicile contre la Moldavie. On est capable de faire la différence et de se qualifier pour l'Euro.
Pas de panique donc pour Bichente Lizarazu ici au micro de Sylvain Charlet. Enfin, le tracé du Tour de France est dévoilé aujourd'hui. Le Tour partira de Nice le 27 juin prochain et parmi les étapes inédites, une arrivée au col de la Lauze au-dessus de la station de Méribel, étape qui risque de marquer les esprits, nous disait tout à l'heure Nicolas Georgerot.
Il faut espérer que ça ne sera pas le col de la Lauze. C'était le journal de Jérôme Flan.